Salut Paul, c'est Sarah à Édimbourg. Moi j'ai grandi dans une famille en Alsace où la maman est française et le papa est marocain. Et comme beaucoup de familles binationales ou émigrées, eh bien très souvent on se rendait au Maroc dans la famille de mon père. Et en général ce voyage il se faisait dans des voitures plus ou moins déglinguées. Moi je me souviens très bien de plusieurs voyages à bord d'une 405 Bleu Marine avec mes deux parents à l'avant. Puis à l'arrière, moi et mes frères et sœurs, et je suis l'aînée. C'était toujours une sacrée aventure, hein, parce que quand tu commences une traversée comme ça, t'as pas la foi, t'as l'impression que tu vas jamais arriver au bout. Et finalement, c'est une petite aventure dans l'aventure.
La route des vacances, un documentaire réalisé par Paul Angèle. Premier épisode, insomnie et jeu de Tetris.
Originaire du nord de la France, donc vers Lille, je suis une ch'ti. Et donc, les vacances pendant mon enfance, c'était souvent descente vers le sud. On est parti dans les Alpes, dans le Jura, on est parti à Belle-Île-en-Mer, on est parti sur l'île de Ré. On changeait en fait à chaque fois, on partait pas toujours au même endroit. On a visité finalement pas mal d'endroits, de bout de France.
Aussi longtemps que je me souvienne, on a toujours voyagé en train avec location de voiture à l'arrivée. Pourquoi le train? C'était comme ça. Mon père, c'est un fan inconditionnel de train. Il a même écrit des livres à ce sujet, bien qu'il déteste cordialement la SNCF. Donc, au lieu de faire de la route, on prenait le train. On partait deux fois généralement dans l'année, pour les grandes vacances et pour les vacances de Noël. Noël, c'était toujours la même destination. On allait à Bordeaux, dans la famille de ma mère. D'abord chez mes grands-parents à Bordeaux, et ensuite, pour le 24 et le 25, on allait à Saint-Christoly-de-Blaye, chez ma tante et mon oncle, qui sont producteurs de vin et chasseurs.
J'ai toujours eu un rapport assez complexé au voyage quand j'étais enfant, parce que je voyageais tout simplement pas beaucoup avec mes parents. On partait pas toujours en vacances. Quand on partait, c'était jamais très très loin, dans de la famille, en Bretagne par exemple, ou en Normandie. Et à la rentrée, j'avais toujours des craintes par rapport à cette fameuse question « Mais où est-ce que tu es parti? Qu'est-ce que tu as fait en vacances ?» etc. Ce complexe-là, il s'est un peu effacé à partir du moment où mes parents ont pu acquérir une petite maison à la campagne, en Bourgogne, qui est devenue un peu notre repère pour les vacances. Donc ça n'avait rien de très très exotique, mais c'était un repère, c'était notre endroit à nous qui nous permettait de nous échapper de la ville et de la cité bétonnée où on habitait.
La route des vacances, pour moi ça me fait penser à des trucs en rapport avec la famille. Je viens d'une famille nombreuse, j'ai deux frères, deux sœurs, j'ai des cousins. Et je suis le plus petit de mes frères et sœurs. Donc, pendant des années, pendant toutes mes années, là, quand on allait en vacances, c'était soit j'allais en colo, soit on partait dans la famille. Avec souvent un neveu, une nièce qui nous accompagnait. Parce que mes parents étaient donc des grands-parents aussi. Et j'avais à peu près le même âge que mes neveux et nièces. Et on allait en vacances chez des frères et sœurs. Donc souvent, ça donnait lieu à de bonnes vacances. J'allais chez mon frère avec ma nièce, j'allais chez ma sœur avec ma cousine, j'allais chez ma tante avec mon cousin, enfin des trucs comme ça.
Donc, avec ma mère, on partait en général tous les 2 ans, alors sur l'île d'Oléron. Alors là, c'était vraiment le changement de routine totale, on partait 15 jours. Souvent, la semaine avant de partir, c'était un peu l'euphorie quoi, dans nos têtes, un peu comme quand on attend le Père Noël, en fait. Et nous, souvent, la veille de partir, on n'arrivait pas à dormir parce qu'on était trop excités. Donc du coup, voilà, je me souviens d'une fois où j'ai eu une belle insomnie, parce qu'en fait, tu te fais des films dans ta tête. Voilà, donc c'était un peu l'état d'esprit avant de partir.
Tous les ans, pour les vacances, on remontait en Alsace pour aller voir mes grands-mères. On partait deux fois dans l'année, en général à Noël et puis en été. On habitait dans la région de Montpellier à l'époque et on faisait la route jusqu'à Guebwiller. Et c'était toujours un peu l'expédition, quoi. Avant le départ, j'étais dans un tel état d'excitation que je dormais même plus. Et même souvent, je tombais malade à cause de l'émotion. Une année, mes parents avaient fait venir un médecin en urgence parce que j'avais 39 de fièvre. Et le mec, il m'avait diagnostiqué un genre de maladie du légionnaire ou je sais plus trop quoi. Et puis le lendemain, après une nuit de sommeil, plus rien. Tout avait disparu. C'est comme si toute la pression retombait une fois que le jour du départ était arrivé.
Alors le goût du voyage ne vient pas de mon enfance. Mes parents ne prenaient jamais de vacances. La ferme, les animaux ne laissent pas de place vraiment au divertissement. Mais j'ai quand même pu avoir quelques échappées grâce à ma tante parisienne qui venait me sortir de ma campagne natale chaque été. Pour nous rendre à Paris, nous prenions le train dans notre petit village de la Manche. C'était 3 bonnes heures devant nous pour rejoindre un quotidien qui était vraiment à des années-lumière du mien.
Les étés donc, je me rendais avec mes grands-parents, mon frère et ma cousine, dans une cité balnéaire du nom de Playa d'Arro, en partant de Lourdes. Pour moi, chaque vacances était l'occasion d'une expédition scientifique, de découvertes naturalistes. Pour ça, j'administrais à ma valise des jumelles, un masque, un tuba, une année même, une loupe binoculaire pour tenter l'observation du zooplancton. Guide du bord de mer, guide des poissons marins d'Europe et de Méditerranée, le guide ornitho, le guide herpétologique, mille pattes, arachnidés et insectes de la région méditerranéenne.
Je me rappelle ce moment où on rentre tous dans la voiture, donc avec mes parents et mes deux sœurs, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Ce moment où on voit le coffre plein à craquer avec nos vêtements, mais plein de nourriture. Ma mère était très prévoyante de ce côté-là, alors qu'il y avait des magasins dans le village où on avait notre maison.
Donc, en général, ma mère, elle s'occupait de préparer tout ce qui était vêtements. Des fois, un peu se prendre la tête parce que, voilà, comme ça rentre pas. Comment on va faire pour essayer d'être un peu quand même à l'aise à l'arrière de la voiture? Parce qu'on avait quand même, on n'avait pas un espace, quoi. On avait, juste que c'était comme voiture, mais c'était pas un truc familial hyper grand. Donc, il fallait essayer de jouer à Tetris un peu avec les bagages. Alors, le truc suprême de la colonie, c'est préparer ton sac à dos. Alors, ça, c'est, avec ton kiaoué, genre kiaoué qui se rentre dans une poche, quoi, qui se met en boule, qui se rentre dans une poche. Le truc, c'est trop la honte maintenant. Donc ton kiaoué, ta gourde, ta lampe de poche pour la nuit.
Au niveau des valises et de ce qu'on emportait, je ne partais jamais, quand on allait à Bordeaux, sans ma PlayStation 2. Oui, j'étais un peu geek à l'époque. C'était vraiment la dernière chose à être mise dans la valise et la première chose à être déballée pour être installée dès qu'on arrivait dans la maison de mes grands-parents.
Ma mère, elle commençait souvent à préparer les bagages quasiment une semaine avant le départ. Je me souviens que le garage était rempli de sacs, de valises, il y avait du matos de camping, des glacières, des jouets, enfin, c'était vraiment un joyeux bordel, quoi. Et elle avait même une espèce de cantine en métal bleu, un peu stylé, équipement de l'armée. Le truc qu'on emmenait au camping, et genre, elle essayait d'y faire rentrer toute sa cuisine. Dans la voiture, autant dire que ça dégueulait dans tous les sens. Le coffre était plein à craquer, la galerie, j'en parle même pas. Et certaines années, on avait même des trucs sous les pieds.
Salut Paul, c'est Assa, j'espère que tu vas bien. Moi, je me souviens de la manière dont on préparait les bagages.
On partait toujours avec des compagnies nationales du type Air France, et donc on avait le droit à vraiment beaucoup de bagages, il me semble une cinquantaine de kilos, si mes souvenirs sont bons. Moi toute seule, je ne sais pas comment je remplis 50 kilos de valises. Mais ma mère, elle sait toujours quoi ramener, et donc les 10 jours précédant la date du vol, c'est toujours 10 jours en fait de remplissage et vidage de valises successives pour voir comment agencer le mieux possible les différentes choses qu'on doit ramener. Donc évidemment, il y a des choses que nous ramenons, nous, pour notre usage, quand on est sur place, notamment des vêtements, mais c'est pas vraiment ça qui compose le gros de nos bagages. En fait, ce qui compose la plupart de nos valises, c'est ce qu'on ramène pour laisser sur place. Donc par exemple, des vieilles fringues qu'on met plus vraiment, soit parce que ça nous plaît plus, soit parce que ça nous va plus, parce qu'on a perdu du poids, on en a pris, etc. Des cadeaux, des choses qu'on ramène pour les enfants, des choses pour l'école, par exemple, mais aussi tout ce que les gens nous disent de ramener au Mali, donc par exemple la famille ou les amis qui habitent en France, qui nous disent « Tiens, tu peux pas ramener ça pour le cousin, du frère, de la sœur de machine qui t'attendra à l'aéroport ?» Et évidemment aussi les produits de première nécessité que voilà, déjà certaines personnes en France ne peuvent pas s'offrir hein, à cause de la précarité, de la pauvreté, mais c'est encore plus compliqué au Mali quoi. Donc je pense par exemple aux protections menstruelles qui coûtent extrêmement cher en fait au Mali et que tout le monde ne peut pas s'offrir, donc on en ramène toujours énormément.
Je pense qu'ils ont longtemps été en service parce que j'ai longtemps voyagé avec eux. Alors je me souviens que pour y monter à l'intérieur, c'était pas simple. Cette grande marche, enfin, est-ce que c'était la marche qui était grande ou est-ce que c'était la taille de mes jambes qui me faisait défaut ? Je me souviens plus vraiment. Je me souviens aussi des rideaux orange un peu au goût de l'époque et des sièges en simili-cuir assez froids.
Chaque départ, c'était... Que ça soit chez les grands-parents ou en vacances, c'est un chouette moment. Un moment où on changeait d'espace, d'espace-temps, où on rencontrait des nouvelles personnes ou pas, où on retrouvait, où je retrouvais mes cousins quand j'allais dans ma famille. Donc c'était des chouettes moments, j'étais contente. Toujours triste de quitter mes copines une fois que j'avais fini l'école, mais en fait, assez vite, assez contente d'être en vacances et de faire autre chose.
Et je me rappelle de cette bulle temporelle, ces 2 heures de voiture, seulement 2 heures, qui nous séparaient de 2 univers complètement différents. Et pendant ces 2 heures-là, j'avais pas vraiment besoin de m'occuper parce que j'avais juste envie de voir le paysage défiler, de compter les minutes qui s'égrènent et qui me rapprochent de plus en plus de ce lieu qui, pour moi, était vraiment un havre de paix, cette maison.
Ce podcast est né durant le confinement, avec la collaboration de Sarah et Assa du podcast Écosse Toujours, Marc-Antoine pour Bourlinguer, Laura des coulisses du voyage, Ben pour la diagonale du vide, Émilie des parents voyageurs, Florian de Pause Vélo, Marie-Cécile pour Esperluette et Magali, ma céréale écouteuse préférée. Vous pouvez réécouter cet épisode sur Allô la planète et sur toutes les plateformes de podcasts.